Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, bonne fin de journée. On va défaire le monde effectivement maintenant dans RTL Soir avec la joyeuse bande Cyprien, Céline, Laurent. Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier.
Oui,
vous les connaissez par cœur désormais, hein, un peu de familiarité. L'info avec un autre regard. On va faire le plein de connaissances jusqu'à 19h. Cyprien, pourriez-vous nous donner le menu ?
Ce soir, on défait le monde s'aventure sur la trace de l'ours. Accident ce week-end dans les Pyrénées. L'ours et l'homme peuvent-ils cohabiter ? Explication à venir. Au menu également, des miss un peu trop accro à Instagram, du béton fabriqué avec du bois et de la bière à l'huître. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups.
Jean Lassalle, le berger des Pyrénées, qui n'a pas peur des ours. Mais ce week-end, un chasseur a été attaqué et a tué la bête. Éternel débat sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Alors ce soir, sans prendre parti et en se basant sur les faits, on a voulu en savoir plus.
Combien y a-t-il d'ours en France ? Comment vivre avec les plantigrades ? Et chez nos voisins européens, ça se passe comment ?
Pour tout savoir, on a contacté Bertrand Sicard. Il est président de l'association Férus. Alors lui, il faut le savoir, hein, il milite pour la protection de l'ours et d'abord, on lui a demandé d'évaluer la population d'ours dans les Pyrénées.
Les Pyrénées ont toujours été habitées par des ours et c'est un peu leur marque de fabrique, hein, c'est un peu leur identité. La population a été proche de zéro, mais elle s'est reconstituée. On a une croissance de 11 à 13% par an environ. Les ours se reproduisent en général tous les deux ans avec très peu d'oursons, hein, ils ont 2-3 oursons. On arrive presque à les compter un par un. On a à peu près 64 ours détectés en 2020.
64, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ?
Alors justement, pas tant que ça. Dans les Abruzzes, en Italie par exemple, il y en a plus de 100. Dans les monts Cantabriques, dans le nord de l'Espagne, ils sont plus de 300. Et là-bas, la cohabitation entre l'homme et l'ours se passe beaucoup mieux que chez nous. On a donc voulu savoir pourquoi.
D'abord parce que déjà, ils n'ont jamais perdu la présence des grands prédateurs, hein, que ça soit loup ou ours. Hein, et donc, ils ont toujours gardé les moyens de protection qu'il fallait. Enfin, ils n'ont jamais perdu la culture de la protection. Les Espagnols des monts Cantabriques, alors que nous, on avait complètement perdu la culture de la protection. En Italie, c'est un parc national, hein, dont le foncier est tenu par l'État. Donc ça n'a rien à voir avec nous. La cohabitation est tout à fait possible, alors on sait ce qu'il faut faire. Il faut mettre des chiens de protection, il faut mettre des parcs contention la nuit, et puis il faut ramener les bergers sur les estives. En France, on a des moutons qui se baladent dans la nature sans berger, sans aucune protection.
Donc en fait, il faudrait mieux s'équiper, c'est ça ?
Oui, mais alors, pour ça, il faudrait aussi mieux accompagner les bergers. Après, on peut aussi se demander, à quoi ça sert vraiment de réintroduire l'ours dans les Pyrénées ? Et là, réponse multiple.
Tout ça, ça s'inscrit dans un retour général du sauvage que la population française réclame. Ça s'inscrit dans le retour de la biodiversité qu'on essaye de protéger. Ça boucle la chaîne alimentaire, hein. C'est un animal emblématique qui pourrait aussi ouvrir des portes en matière de tourisme rural. Ce que font les Italiens, ce que font les Espagnols.
Et c'est vrai que la présence de l'ours dans le parc national des Abruzzes, en Italie par exemple, ça draine des centaines de milliers de visiteurs chaque année.
Ouais, je peux confirmer, je l'avais constaté en reportage, il y a le miel de l'ours, l'hôtel de l'ours,
l'auberge
de l'ours, les biscuits de l'ours, effectivement j'y étais allé.
Et c'était bon ?
Les biscuits et le miel ?
Ouais. Bah ouais.
Toujours très bon.
Mais je crois que c'est les abeilles qui faisaient du miel.
Il est futé celui-là.
RTL. Sous les radars.
Allez, dans Défait le monde tous les soirs, on vous livre une info qui est passée inaperçue.
Le génie français à l'honneur, Laurent, avec une invention qui pourrait bien changer la face de nos bâtiments.
Alors, c'est une petite révolution dans le monde de la construction, le béton de bois pour construire des bâtiments.
Le béton de bois.
Béton de bois. Après une quinzaine d'années de recherche, la start-up CCB Green Tech, à Beaurepaire en Isère, a réussi à développer cette technologie unique, son nom Timber Rock. Alors, je vous donne la recette. On remplace le gravier et le sable habituellement nécessaires pour faire du béton classique par environ 90% de copeaux de bois. Les 10% restants, c'est du ciment et de l'eau. Résultat, plusieurs avantages, comme nous l'explique le directeur exécutif Cédric Longin.
Premier avantage est environnemental. On a un bilan carbone qui est fortement négatif. Le bois ayant absorbé beaucoup plus de carbone que le ciment n'en a émis.
On remplace donc des ressources épuisables par des ressources renouvelables. Un matériau trois fois plus léger que le béton classique. Il y a aussi plusieurs avantages pour les habitants.
une isolation thermique très intéressante qui permet de garder les bâtiments au frais en été et de faire des économies d'énergie en hiver. Une isolation acoustique très intéressante. Et puis les bâtiments, bon, bah là c'est plus technique, mais ont une excellente résistance au feu.
L'entreprise iséroise s'approvisionne uniquement en bois régional. Elle a déjà construit avec ce béton de bois une soixantaine de bâtiments clés en main en France pour montrer sa réussite. Une technologie qui a séduit le cimentier Lafarge. Le groupe vient d'entrer dans la capitale de la start-up.
C'était passé inaperçu. Vive la science et vive Laurent. Une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour briller au dîner. Juste après ça, vous allez agrandir votre collection de timbres. Tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, bonne soirée avec RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Et voici une première info pour faire le malin. Pour briller tout à l'heure au dîner.
Ami philatéliste, collectionneur de timbres, vous êtes à l'honneur. Il existe désormais un timbre à l'effigie de Valéry Giscard d'Estaing. Et être sur un timbre, moins d'un an après son décès, bah c'est pas possible pour tout le monde, Laurent.
La Poste attend généralement 5 ans avant de prendre la décision d'émettre un timbre en l'honneur d'une personnalité, une durée qui permet de s'assurer qu'il n'y a notamment rien de sulfureux dans le passé de l'heureux élu. Mais le délai n'est pas valable pour les anciens présidents de la République. La Poste respecte une tradition. Un an après la mort d'un ancien chef de l'État, un timbre à son effigie est édité. Et si l'idée vous vient à l'esprit, on ne réalise pas de timbre pour une personnalité vivante. Désolé, les amis.
Très bonne info pour briller. Mais pas forcément si facile que ça à caser au dîner.
Ah bah si vous avez un ami philatéliste.
Oui, alors il faut parler philatélie ou Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. C'est pas forcément le type de conversation qui arrive naturellement comme ça.
Changer de dîner.
Non mais tiens, il faut que j'aille acheter un timbre. Mais alors, le savais-tu?
Tiens, voilà, bam.
C'est mal parti pour la victoire.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde.
Place au verdict. Céline Landreau désigne chaque soir soit le winner, soit le loser du jour. Bah, aujourd'hui, ce sont des loseuses.
Hein. Et ce soir, les Miss en lice pour le concours de Miss France sont dans votre viseur, Céline, puisque trop de réseaux sociaux peuvent nuire, paraît-il, à une bonne élection.
Oui, et pourtant, tout avait bien commencé. Ah, vous savez, les Miss qui, tous les ans, nous font rêver avec leur voyage de préparation.
Sur le voyage de préparation qui aura lieu en République dominicaine.
Demain, vous les emmenez à l'île Maurice pour leur préparation à Tahiti.
Vous vous préparez à partir sur l'île de la Réunion ?
Enfin, sauf l'an dernier.
Et puis cette année, donc elles ne sont pas au soleil, au bout du monde, mais tout près du château de Versailles.
Et oui, dans le 7-8, loin des cocotiers.
Ça a tout changé, le coronavirus.
En effet, Jean-Pierre. Mais cette année, munies pour la première fois d'un contrat de travail, elles ont pu redécoller direction... La Réunion. Et ce sont les vraies Miss que vous avez entendues.
Oui.
Donc, les Miss qui sont arrivées sur l'île de la Réunion où, dès leur atterrissage sur le tarmac, elles ont pu découvrir les traditions locales. Et la fameuse danse du Maloya.
Alors c'est quoi?
C'est une danse locale où on se trousse pas mal, mais je vais pas vous faire de démonstration. Non, je ne maîtrise absolument pas, c'est pas là. Mais au-delà de la danse, l'objectif de ce voyage, c'est de se former, apprendre à devenir Miss. Elles suivent donc des cours.
Il faut toujours avoir une introduction. Quand vous êtes devant un public, danse. Plein de personnes. Prenez une personne au troisième rang, par exemple, et une autre à gauche au 20e rang. Comme ça, quand vous parlez, vous allez pouvoir poser votre regard.
Important, le regard. Mais voilà, comme à l'école, parfois, eh bien, il y a des mauvaises notes. Les Miss réprimandées pour leur utilisation des réseaux sociaux, recadrées par le proviseur Sylvie Tellier pour un usage trop intensif d'Instagram, ce réseau social où l'on poste des photos, parfois de soi, souvent retouchées. Et la directrice générale s'appuie sur Amandine Petit, la Miss France, en titre cité sur BFM.
La Miss France qui a donc parlé dans son discours aux candidates. Elle disait, mesdemoiselles, attention, vous êtes au concours Miss France, pas au concours Instagram. En retouchant trop, vous risquez d'engendrer des réactions déceptives quand vous arriverez dans l'aventure.
Comment ça, déceptif? Pourtant, Miss France, ce n'est pas un concours que physique. Hein, rappelez-vous ce que disait Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France.
Moi, je n'ai plus envie d'être dans le Victoria's Secret, c'est-à-dire dans le touche-feu et tout physique. Parce que la Miss France, c'est pas une mannequin.
Ben oui, arrêtons avec le physique. Alors rendez-vous le 11 décembre pour élire une Miss France au naturel.
Rendez-vous est pris. Certains autour de la table connaissent visiblement le générique par cœur.
Merci. C'est la musique des vacances. Ça sent les vacances de Noël.
Merci Céline. Une petite pause. Dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Alors on va pas partir dans le 7-8 ni à l'île de la Réunion. On va partir en Guadeloupe juste après ça. Tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h54, on espère que vous passez une bonne soirée à l'écoute de RTL. On vous épaule, on vous accompagne, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner.
La Guadeloupe au cœur de l'actu avec des manifestations violentes, mais ce soir, une question nous anime, pourquoi la Guadeloupe s'appelle la Guadeloupe, Céline?
Ah, il se pose des questions de fond dans cette équipe.
C'est vrai, monsieur. Ce matin,
j'imagine la scène au bureau ce matin. Dis donc, Céline, pourquoi la Guadeloupe s'appelle la Guadeloupe?
C'est à peu près comme ça que
ça se passe. Et en général, je réponds, eh bien, je vais chercher Cyprien.
Et là,
je vais
regarde sur Internet, elle cherche.
Et j'ai trouvé. Donc, l'explication, il faut la chercher chez les morts qui ont envahi l'Espagne, rappelez-vous, et qui avaient baptisé une rivière de l'ouest du pays, Guadeloupe, qui est devenue en espagnol Guadalupe. Alors, vous allez me dire, on est loin des Antilles. Oui, mais qui est allé prier à Guadeloupe? Christophe Colomb, et c'est donc en hommage à ce monastère Santa Maria de Guadalupe que le navigateur a baptisé l'île Guadeloupe lorsqu'il a accosté en 1493.
Il y a plein d'infos pour briller au dîner. On apprend que c'est Christophe Colomb qui a,
qui a accosté en Guadeloupe.
Qui a appelé l'île la Guadeloupe.
Oui.
Formidable. Très bonne info pour briller.
Vous voyez, moi, c'est ça au timbre. Je reste avec mes timbres, se pose le matin.
Gardez vos timbres, Charles Laurent. Un point pour Céline.
Marche.
Allez, tous les soirs, ça c'est vraiment le coup de fil qui nous donne le sourire. On vous appelle et vous nous racontez un bout de vous, un bout de vos projets.
Ouais, alors il y a des projets qui sont quand même sacrément intéressants. Ce soir, Laurent, vous nous proposez un apéro, ça m'a plu ça. Pas comme les autres, une bière plutôt originale.
Et si vous vous laissiez tenter par une bière aux huîtres? C'est le résultat d'une rencontre entre Nicolas Brasseur dans le Calvados et Guillaume Poissonnier dans l'Eure. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Alors là, il va falloir nous expliquer comment ça marche.
C'est très complexe parce qu'en fait, l'huître, on l'incorpore vraiment au milieu en fait, de la fabrication. Après, Nicolas, qui est un brasseur de très haut niveau, en fait, a vraiment plusieurs techniques. D'abord mettre l'huître, puis après la coquille.
Il y a la coquille dans la bière.
Oui, parce qu'en fait, Nicolas me disait, en fait, il y a beaucoup de calcium dans la coquille. Donc moi, niveau goût, j'étais pas pour, parce que je me suis dit, ça va pas apporter grand-chose. Mais après, en suivant ce qu'il me disait, je me suis dit, c'est parfait.
Alors, rassurez-nous, quand on déguste la bière, on n'a pas un bout d'huître au milieu. Ça ressemble à une vraie bière, c'est ça?
Oh, ça peut arriver. Non, il n'y a aucun risque. Juste de la bière et le goût d'huître.
Pour mettre le goût, pour être très clair, vous immergez des huîtres et des coquilles dans les cuves?
Voilà, c'est ça en fait. On fait un premier stade, arrive à une certaine ébullition, une certaine température. On incorpore d'abord le jus d'huître, l'huître, le mollusque en lui-même. Et plus tard, on rajoute les coquilles, mais bien après.
C'est une bière blonde, c'est une bière brune, ça ressemble à quoi?
Alors c'est une bière brune sur la base du stout.
Ouais.
Donc c'est une bière couleur chocolat en fait quand vous la versez. Après elle est très légère, hein, de mémoire, elle doit faire 4,7.
D'accord.
Donc c'est une bière plutôt légère.
Et question goût, ça donne quoi? Parce que pour celles et ceux qui ont du mal avec les huîtres, ça passe quand même?
Alors oui, en fait, faut pas s'attendre à prendre une huître à la bière, en fait. C'est pas du tout cela. Vous prenez votre bière et arrivez aux deux tiers de la bière. Là, vous avez une petite note iodée et les arômes d'huître qui arrivent bien subtilement après. C'est vraiment quelque chose qui monte crescendo et ce qui fait la subtilité de la bière.
Vous êtes seul sur le marché ou il y a de la concurrence sur la bière à l'huître?
En fait, on doit pas être beaucoup. Je crois qu'on est 2-3 en France à l'avoir fait. Donc pas vraiment de concurrence. Après c'était pas fait non plus dans une étape très commerciale, mais plutôt un délire poissonnier brasseur en fait. Et on s'amuse, on se fait plaisir quoi.
On peut la trouver où cette bière à l'huître alors?
Bien évidemment chez moi. Chez moi et encore chez moi. À la brasserie du Bruyant-Auge, brasserie Sagesse chez Nicolas. Après il y aura 2-3 poissonneries qui les feront, mais ça sera pas quelque chose que vous trouverez partout. C'est pas le but non plus.
Et vous avez essayé de lui donner un petit nom ou elle va juste continuer à s'appeler bière à l'huître ou...
Alors non, elle a déjà son nom en fait, c'est Oyster Princess. Si vous voulez, c'est Nicolas qui est un peu fan de cinéma, qui a trouvé un vieux film de Ernest Lubitsch de 1919. Et donc en fait, dedans, c'est une fille d'ostriculteur qui rencontrera un prince déchu, et pour faire bref quoi.
Oyster Princess, parce que Oyster ça veut dire huître évidemment, je dis pour nos auditeurs qui ne seraient pas bilingues.
Exactement.
La bière à l'huître, c'est le projet lancé par Nicolas Brasseur et Guillaume Poissonnier. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci Guillaume, et bien entendu on consomme, non pas les huîtres, mais la bière à l'huître avec modération.
Absolument.
Si comme Guillaume vous avez envie de nous raconter vos projets, vos initiatives, vos coups de cœur, vos vos combats. Vous n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir dans RTL Soir.
On est très connectés, donc vous pouvez nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter d'On défait le monde. Laurent Tessier sur le coup en permanence.
Et sinon, par courrier, ça marche aussi.
Ah oui,
56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.
Ouais, on adore le courrier.
Et vous collez des timbres.
Avec
comme
un timbre,
ça,
oui,
Laurent est content. Merci Laurent, merci Cyprien, merci Céline. À demain les amis.
À demain.
18h40 pour de nouvelles aventures. Dans un instant, ce sera le journal de 19h de Stéphane Jeunesse.